Bon, à quoi pourrait ressembler une critique marxiste d'une série télévisée? Ou je poserai aussi une autre question. Comment analyser la série télévisée en tant que telle, d'une manière qui respecte sa singularité, hein? J'ai l'impression qu'il y a pléthore d'analyses des séries dans le domaine des cultural studies. Ces derniers temps, il y a un véritable engouement. Hein, c'est un sujet qui passe simplement à la mode. Hein, mais personnellement, je peux avoir un peu l'impression, comme l'a dit Gregor McLennan lors du déjeuner l'autre jour, citant Stuart Hall, « Another bloody analysis of The Sopranos hein, ». C'est du forcé de reconnaître que beaucoup d'analyses des séries télévisées voient celles-ci un peu comme des prétextes hein, pour une démonstration théorique ou bien comme un vecteur d'un programme identitaire. Hein, ça veut dire qu'on voit telle ou telle série comme l'expression d'un certain courant féministe ou gay studies, etc. Ce n'est pas mon propos, c'est pour ça que j'insiste. Bah, c'est les deux. Séries télévisées en tant que telles, en tant que forme singulière, mais aussi une critique marxiste qui s'oblige hein, à se mettre, ou là je suis influencé par Frederick Jameson, à se mettre un peu en surplomb par rapport aux autres analyses. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de revisiter une analyse qui se voulait marxiste, publiée en anglais il y a 26-27 ans, hein, où je proposais dans un premier temps d'analyser un petit corpus de séries d'espionnage britannique qui avait influencé mon enfance. Et la réponse de l'éditeur à l'époque, c'était non. C'est trop étriqué comme sujet. Il faut ouvrir, il faut traiter toutes les séries. Ce n'est pas viable sur le plan commercial. Et là, on mesure la distance parcourue depuis où les monographies de telle ou telle série hein, deviennent de mise. Bah, pour moi, ça, c'est problématique à plusieurs égards. Hein. Non moins une approche marxiste. Parce que cela revient un peu d'importer une approche dominante dans les études littéraires ou cinématographiques où on constitue un canon de grandes œuvres. Ça veut dire que dans l'impossibilité d'analyser toutes les séries, on en choisit certaines, hein, et des grandes œuvres. Hein, mais cela dit, difficile de cerner une grande œuvre qui est composée de 200 ou 250 épisodes. Donc, le choix généralement fait par la critique universitaire est de privilégier les séries qui s'y prêtent au jeu. Et je plaisante de moitié en disant qu'en France, presque la moitié des analyses universitaires concernent une seule série, The Wire. Hein, qui a la faveur des universitaires, mais une série extrêmement atypique et extrêmement minoritaire aussi. Hein. Donc, cette façon d'aborder les séries n'est pas illégitime en elle-même, mais elle se laisse ouverte aux accusations d'opportunisme. Surtout dans le cas de la philo, qui débarque avec un discours tout fait. Hein, ça veut dire telle ou telle série, ça sert à illustrer telle ou telle problématique dont Hobbes ou Machiavel, hein, vous reconnaîtrez peut-être les séries en question. Opportunisme aussi dans les publications, parce que là aussi, c'est là où cette tentative d'établir un canon tombe à l'eau, c'est que à la différence des grands films ou des grands livres qui sont maintenus en vie par des départements universitaires, hein, artificiellement, d'une certaine manière, les séries tombent dans un trou noir une fois qu'elles cessent d'être diffusées à l'antenne. Donc, si on veut publier quelque chose sur les séries, il faut le faire, il y a une petite fenêtre. Généralement, c'est dans les quelques années après son début. Après, c'est trop tard. Donc, ça mène à des analyses qui brochent un peu, c'est pas gay studies, féminine, ou même du marxisme dans le lot, qui sont, à mon sens, un peu superficielles, et on peut même pas attendre la fin d'une série. Donc, cette approche-là, ça marchait un peu dans le cadre de la série classique. La série classique, pour moi, c'est la série qui dominait entre les années 50 et 80. C'est la récurrence se limite à quelques personnages, mais les intrigues sont extrêmement différentes d'une semaine à l'autre et qui sont toujours bouclées. Ça, c'est la série classique. Donc, dans mon premier livre sur les séries, il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai pu traiter un grand nombre de séries en piochant des épisodes, car chaque épisode est plus ou moins représentatif de l'ensemble. Avec la forme de la série feuilletonnante, qui domine maintenant, ça ne fait pas sens. Hein? Piocher un épisode de Game of Thrones, ça n'a aucun sens. C'est même incompréhensible. On est obligé d'attendre la fin de la série, après quoi ça risque de tout intérêt qui n'est plus maintenu par le buzz des médias, l'intérêt s'essouffle rapidement. Donc, ce que je propose de faire ici, c'est une tentative, en fait, de m'adapter aussi à cette transformation de la forme à l'intérieur d'une forme. C'est ce que je présuppose, c'est que la forme prise par la série, qui est elle-même une forme, à un moment donné, prime l'analyse des contenus d'une série particulière, à fortiori un épisode particulier. Donc, trois postulats théoriques pour poser un peu l'analyse. D'abord, je reprends l'idée d'Adorno que la forme et du contenu sédimentaires. Bon, là, je fais un peu violence à Adorno parce que cette expression vient de notre contexte, un débat sur l'art authentique. Et je pense qu'Adorno aurait retourné dans son tombeau s'il savait qu'on appliquait sa formule à une forme populaire aussi méprisée que les séries. Hein. Mais pour moi, la forme est du contenu sédimenté. Ça veut dire que la forme, c'est déjà du contenu. Hein. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, là je m'appuie sur un livre récent d'une théoricienne néo-formaliste qui s'appelle Caroline Levine, qui propose le concept de affordance, ou si je peux me permettre un néologisme en français, permettance. C'est-à-dire que la forme permet un certain contenu. De la même le terme affordance vient du monde du design. Ça veut dire que les qualités d'une certaine matière sont transférables à une variété d'objets. Et aussi, la forme d'un objet peut être utilisée dans plusieurs contextes. Hein? Elle cite l'exemple de Foucault. Prétend que les formes sont toujours portables d'un domaine à l'autre, à l'image de l'emploi du temps monastique transposé dans les écoles, les hôpitaux et les prisons. S'ouvre alors la possibilité que l'organisation du marché des valeurs, par exemple, puisse se transférer dans une forme artistique. Bon, dans le cadre d'une série, par exemple, une des variantes de la série classique, la série d'espionnage des années 60, vous avez des hommes qui partent en mission à l'étranger, hein, qui ont divers flirts, etc. Bon, c'est parfait pour démontrer les qualités d'hommes à la page, qui a des qualités de grands consommateurs, mais ce n'est pas un bon véhicule pour défendre et illustrer des valeurs familiales traditionnelles. D'accord? Donc, La troisième idée, oui, c'est la distinction. Et ça, c'est important parce que ça permet une périodisation des formes internes de la série. c'est la distinction faite par Marx entre soumission formelle et soumission réelle. En fait, Marx, la traduction, c'est subsomption, mais c'est tellement difficile à dire que je préfère dire soumission. Hein. La soumission formelle, c'est une activité qui n'est pas régie par les rapports de production capitaliste. Ça veut dire que les rapports capitalistes interviennent après le processus de production. Hein. Parce que Marx introduit, en fait, c'est le chapitre 6 perdu du Capital, hein, qu'il oubliait d'inclure dans Capital, ce qui est un peu dommage. Hein. Le contexte de Marx, en fait, c'est la transition entre le féodalisme et le capitalisme. Mais je pense qu'on peut transférer cette distinction dans un autre contexte. Donc, soumission formelle, les rapports capitalistes interviennent après coup. Dans la soumission réelle, hein, la production est gouvernée dès la conception même du produit et par des rapports capitalistes. Donc c'est un approfondissement des rapports capitalistes. C'est un processus. Et je pense qu'on peut appliquer aussi cette notion d'approfondissement de la soumission réelle au capitalisme à la transformation de la forme série. Parce que bon, si on réfléchit, la forme classique, on commence dans les années 50, la récurrence, en fait, c'est ça qui... que ça prend la forme d'une série ou d'un feuilleton. En fait, ce qui caractérise la sérialité, c'est la récurrence. Bon, force est de constater qu'au début, la récurrence est minime. Au point où ça peut prendre la forme d'une anthologie. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnage récurrent, c'est uniquement la même thématique. C'est des pièces complètement différentes, mais regroupées autour d'un même thème. Je pense les séries classiques comme Alfred Hitchcock présente ou La quatrième dimension sont peut-être les plus connues. Hein. La série classique, c'est, j'appelle ça semi-ontologique. Voilà, la récurrence est minime parce que ça, c'est les séries western qui, pour des raisons contingentes, ont dominé la fiction, la télévision américaine dans les années 50, bénéficiant des infrastructures qui étaient déjà en place. Il y a peut-être une personne qui revient toutes les semaines, ou deux, mais les intrigues n'ont rien à voir les uns les autres. Comme le pointe Adorno, hein, aussi, il y a quelque chose d'artificiel dans cette récurrence, où le réalisme psychologique est impossible par le simple fait que tout ce que font les personnages est complètement annulé. C'est un peu comme si tout est suspendu et annulé à la fin de chaque épisode, et puis on recommence la semaine suivante comme si rien ne s'est passé. Hein. Donc, il y a des tensions. C'est une forme qui n'existe quasiment plus à la série classique, où les intrigues totalement indépendantes les unes et les autres. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. La récurrence, il ne faut pas oublier que la série est essentiellement une forme commerciale. Il n'a jamais connu d'existence en dehors de son aspect commercial. L'idée, c'est rationaliser les audiences. Hein. C'est l'idée qu'on propose la même chose. Hein. Et donc, c'est une façon, c'est aussi un produit d'appel aussi. Hein. Le feuilleton, la presse écrite du 19e siècle, c'est une façon de garantir une audience régulière. Bon, le problème avec la série classique, c'est... Il y avait un décalage le fait qu'on vendait une audience aux annonceurs, hein, donc une audience là pour consommer des produits publicisés à la télévision, et la défense des valeurs traditionnelles. En fait, ça ne correspondait pas. Ce qui est donné une variante à l'intérieur de la série classique, la série d'espionnage, dont j'ai parlé, qui s'ouvrait à l'international. Un petit changement formel à l'intérieur de la série classique, là, c'est ce que j'appelle les segments modulaires. C'est-à-dire que le personnage idéal, bon, c'est toujours l'héros masculin, hein, C'est quelqu'un qui sait se servir de ses poignes ou manier une arme, mais qui aussi sait séduire, et il y a un sens d'humour. Mais on ne peut pas faire tout ça en même temps. Donc il y a des segments détachables qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, où l'héros peut faire une démonstration de ses capacités. Et ces segments peuvent être détachés de l'intrigue. D'accord ? Bon, les années 70, je vais un peu vite là, mais bon. Il y a un changement de mère chez les annonceurs. On se rend compte qu'en fait, il y a un décalage entre le public, pour les westerns, à dominant masculin, et le public pour lequel les produits étaient destinés, à savoir les femmes et les jeunes. Ça manquait. Donc, il fallait reconfigurer la série pour toucher un public plus varié, hein, ce qu'on appelle une évaluation qualitative et non pas purement quantitative de l'audience. Il fallait plus de femmes et plus de jeunes. Hein. Ce qui a donné une autre forme de série dans les années 70, c'est la série où il y a une inflation des personnages. Parce que justement, pour toucher un public divers, il fallait plus de femmes dans les séries. C'est à ce moment-là que la série policière remplace carrément les séries western. Hein. Plus de femmes, plus de jeunes, plus de représentants des catégories ethniques, etc. etc. Une inflation des personnages. Non seulement une inflation des personnages, mais des segments modulaires. Ça veut dire que pour maintenir le rythme, il y a des segments où on passe dans la vie privée des personnages. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec l'intrigue policière en cours, mais c'est le moment de voir les policiers chez eux, où ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes d'alcoolisme et tout ça. Bon. Donc là, c'est un petit pas vers cette forme bâtarde qui est maintenant dominante, c'est la série feuilletonnante. L'autre chose aussi, c'est le tandem. Hein, c'est les deux flics aux personnalités complètement opposées. On peut citer Starsky et Hutch, qui fait une espèce d'alliance de classe à deux, en fait. Hein, c'est quelqu'un de la classe moyenne et quelqu'un d'origine prolo. Bon, là, c'est la réconciliation hein, de deux classe sociale. En 75, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Donc, ces deux personnages, deux catégories sociales si opposées pendant la guerre, magiquement réconciliées. Sauf que là, il y a beaucoup de réconciliation à faire. Hein. Alors là, l'inflation des personnages, ça peut donner c'est pas les possibilités, les grandes équipes de 12, 13, 14, il y a 16 dans le cas de Hill Street Blues. Alors là, les choix sont stratégiques. Ben, il faut des Noirs, il faut des Hispaniques, il faut évidemment des femmes. Hein. Dans quelle quantité ? Ben, ça reste à déterminer. Et il faut des représentants des minorités sexuelles. Il faut, c'est pas des gens aux formes physiques un peu différentes, des personnes un peu obèses ou handicapées, etc. Donc le choix des personnages devient stratégique. Et ça mène à une inflation, parce qu'on ne peut jamais couvrir tout le monde. Bon, la série feuilletonnante. Il me reste combien de temps, là, vous dites ? Parce que j'ai oublié d'aller vite.
5 minutes.
Bon. Donc, je passe rapidement la série feuilletonnante. Excusez-moi, je suis obligé de gommer. Bon. Donc, voilà. Excusez-moi. Que signifie le passage de la série feuilletonnante hein, qui opère à partir des années 80 hein? Je vois trois choses. Trois remarques à faire. Les personnages multiples, représentant des opinions et des approches très diverses face aux problèmes sociaux, permettent de limiter les dégâts d'une passivité de fait, d'une absence de projet social à défendre. Bah, c'est dans les séries comme Deux flics à Miami, les flics, bah, on le dit, c'est pas, même pas la peine de lutter contre la criminalité endémique parce que tout le système bancaire américain est dépendant de l'argent de la drogue. Donc, ils sont là à prendre la pause, en fait. C'est inutile. Hein. Le monde est gagné par la vice. Ce que j'appelle une forme de passivité. Hein. Il n'y a aucun projet social à défendre. Et je pense que le feuilleton est plus adapté à cette passivité de fait. On ne peut pas défendre un projet social positif en recourant à la violence. Hein. Deuxième remarque. En eux-mêmes, les personnages multiples déplacent la narration vers les relations entre eux au détriment du social, ouvrant de fait la forme série vers celle du feuilleton. Et troisième remarque, la forme feuilletonnant introduit des éléments d'instabilité dans une série, condamnée à lutter contre sa propre entropie dès le départ. Bref, l'assemblage, ce qu'on réunit dès le départ d'une série, ne peut que se dégrader. C'est une forme qui correspond à une société vue en ces termes. Et en fait, la série feuilletonnante a beaucoup de mal à se maintenir après 6 ou 7 saisons. Hein, et complètement épuisé ces termes. Bon, donc, soumission réelle, la série feuilletonnante. On peut dire que la série classique, assez statique, qui correspond à un monde vu en ces termes-là, un monde assez harmonieux où il s'agit de restaurer l'ordre. Hein, la menace vient toujours des gens de l'extérieur qui mettent le bordel hein, en débarquant, donc il faut restaurer l'ordre. On peut dire que là, la récurrence, bah, c'est un peu comme une forme de croissance simple. Ça veut dire qu'on réinvestit. Hein, c'est l'assemblage en forme de capital fixe symbolique. On le réinvestit tout simplement hein, chaque semaine. Donc ça mène à une espèce d'empilement des épisodes. Mais en fait, dans le capitalisme financier, hein, c'est la croissance composée. Ça veut dire que chaque séquence, hein, ben, c'est les interactions avec les personnages mènent à de nouvelles situations et de nouveaux personnages. Et les personnages ne peuvent pas être tous utilisés en même temps. Ça devient comme une forme de capital fictif. Ça veut dire des personnages qui sont là virtuellement. Hein. L'inflation de personnages prend une autre dimension dans une série comme Game of Thrones où j'ai lu que ben, dans la saison 2 ou 3, il y avait 257 personnages. Donc, il faut gérer tous ces personnages. On fait des espèces de placements. Hein. Ça veut dire qu'on fait, on matérialise certains de ces personnages virtuels de temps en temps. Hein. Et quand il y a trop de personnages, on les liquide. On les liquide tous. Hein. C'est un peu comme un crash boursier. Et la série, bon, ça devient une grande instabilité, mais ne peut fonctionner que à ce prix-là, en fait, ça veut dire qu'il faut créer et liquider des personnages en permanence. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire sur le public, comme culture populaire. Je dirais tout simplement ceci. Hein. Selon la logique de la soumission réelle, l'audience n'est pas en dehors de la série. Hein. Là aussi, c'est ce processus de soumission réelle. Ça veut dire que alors qu'avant, on produisait la série et on essayait de vendre cette série au public, maintenant, l'audience est produite en même temps que la série, et même avant. Ça veut dire que les premières réunions où on lance l'idée d'une série aux producteurs, aux scénaristes, les directeurs de marketing sont déjà là, aux premières réunions. Là je m'appuie sur le livre ethnographique de John Caldwell sur la production télévisuelle américaine. Donc, en fait, l'audience est activement soumise et appelée à jouer un peu le rôle d'auxiliaire de marketing. Hein. C'est eux qui créent le buzz, qui maintient l'intérêt dans les séries. Pour la série Lost, on a même c'est les producteurs qui ont établi la base de données des fans et qui ont alimenté les forums et toutes les spéculations sur l'intrigue ne faisaient que maintenir l'intérêt. Donc là, c'est devenu une pratique courante. Pour boucler la boucle, il y a danger même que l'analyse universitaire ne fait que nous transforme en auxiliaire de marketing pour maintenir l'intérêt autour d'un public très spécial. Bon, je m'arrête là.
Merci beaucoup, David.